J'ai intitulé mon intervention de l'archéologie comparée à l'histoire globale, un art à l'épreuve du politique. J'avais envie en fait de vous faire partager une intuition que j'ai développée en suivant le projet en fait de Middle-earth. C'est toujours un peu particulier en tant qu'artiste quand on travaille sur un autre projet qui n'est pas le sien forcément. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas justement dans un travail de théorie sur de curateur, en fait, sur le projet, mais que j'étais donc chargée de recherche plutôt dans une pratique et dans une prospective, justement, de terrain. Les artistes, en fait, avaient besoin d'un certain nombre d'objets et qui m'ont demandé d'aller glaner dans les différents musées d'archéologie. Et de fil en aiguille, donc j'étais plutôt chargée de la partie archéo. Et donc le premier musée finalement, un des premiers musées dans lequel je suis allée, donc c'est le musée de Saint-Germain-en-Laye, le musée d'archéologie nationale. Et donc c'était très intéressant parce qu'en fait j'ai pu discuter donc avec la conservatrice. Et de fil en aiguille, je vais justement vous dérouler un peu ce fil un peu théorique que j'ai pu tisser à travers ces intuitions qui sont nées de manière, je dirais, très intuitive à partir des questionnements critiques qu'on a pu avoir avec Nathalie, avec ce qu'elle-même avait eu avec ses membres de l'équipe sur l'exposition. À savoir, à la question qui était posée, en quoi cette exposition, non pas est ou pas politique, mais comment finalement, quelle serait la dimension politique de cette exposition? Et finalement, peut-être la question finalement principale que cette exposition nous pose à tous en fait, enfin surtout nous en tant qu'artistes, je dirais, même en tant que curateur ou en tant que vous aussi, je dirais travailleurs dans des institutions, comment on se positionne en fait, comment finalement les artistes se sont positionnés de manière politique? Et donc c'est des questions très complexes en fait, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est vrai que finalement moi j'y réponds pas forcément, mais disons que ces recherches-là m'ont permis de me positionner en fait. Et donc comme je le disais, quand je suis allée au musée d'archéologie comparée. Donc déjà, je ne savais pas, moi, ce que c'était l'archéologie comparée. On va dire, une association de termes que j'aime bien, parce que finalement, c'est comme la littérature comparée, donc de l'archéologie qui compare. Et donc la conservatrice, en fait, m'explique un peu donc, les origines, justement, de ce département, qui est quand même assez exceptionnel, hein, qui existe nulle part ailleurs. Et donc, elle me parle, donc, de ces deux créateurs, donc de Henri Hubert, en fait, donc qui est le conservateur, et Marcel Mauss, qui travaillent ensemble, en fait. Cette salle d'archéologie, elle est conçue au début du XXe siècle, et elle souhaite illustrer donc l'histoire ethnographique de l'Europe et de l'humanité, en se fondant sur l'étude du fait social total. Donc c'est une nouvelle notion qui arrive, on va dire, dans mon prisme de lecture. Depuis les origines de l'homme jusqu'au début du Moyen Âge, et donc finalement là on se retrouve finalement voilà, on est dans cette collaboration entre Marcel Mauss et Henri Hubert sur cette question du fait social total. Et moi qui, comme je ne suis pas savante ni érudit, mais que je suis une artiste et que je travaille avec les concepts de la même manière qu'on pourrait travailler avec de la glaise ou du bronze, ou du coup je les dénature, je les tripote, je les mets en relation, quoi. Et donc le fait social total, pour moi, c'est devenu une espèce de paradigme très plastique au final, que j'ai eu envie de vous faire partager, et qui finalement va résonner aussi avec des notions plus contemporaines qu'on retrouve aujourd'hui dans la discipline de l'histoire globale. Donc pour revenir un peu donc aux origines de ce terme-là. Donc, qu'est-ce que le fait social total? Donc, qu'est-ce qu'est ce fait, enfin, qu'est-ce qu'est ce paradigme qui a influencé, enfin, qui a vraiment permis à eux de concevoir réellement leur département d'archéologie comparée? Donc, Mauss en donne une définition dans son essai sur le don. Je le cite. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu'on nous permette l'expression, des faits sociaux totaux ou, si l'on veut, mais nous aimons moins le mot, généraux. Deux points. C'est-à-dire qu'ils mettent en branle, dans certains cas, la totalité de la société et de ses institutions. Entre parenthèses, potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc. Et dans d'autres cas seulement, un très grand nombre d'institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concerne plutôt des individus. Dans ces phénomènes sociaux totaux, comme nous proposons de les appeler, s'expriment à la fois et d'un coup toutes sortes d'institutions, religieuses, juridiques et morales, et celles-ci supposent des formes particulières de la production et de la consommation, ou plutôt de la prestation et de la distribution, sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutissent ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces institutions. Donc les faits sociaux totaux assemblent tous les hommes d'une société, et même les choses de la société, à tout point de vue et pour toujours. Donc il y a une idée comme ça de la morphologie sociale, en fait, qui transparaît. Donc Mauss montre à quel point l'échange, et plus particulièrement le don, parce que là, il traite vraiment de l'essai sur le don, constitue donc un fondement universel de la vie sociale. Donc c'est cette idée, en fait, de rassemblement et même de concentration sociale qu'il faut mettre au premier plan pour comprendre ce que Mauss entend. Donc, dans son introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss en tire une règle première pour la méthode ethnographique, que le fait social total ne signifie pas seulement que tout ce qui est observé fait partie de l'observation, mais aussi et surtout que dans une science où l'observateur est de même nature que son objet, l'observateur est lui-même une partie de son observation. Donc ça, c'est un paradigme qu'on connaît très bien dans l'art, parce qu'on dit en général que le regardeur fait le tableau. Ça, c'est pas nouveau. Donc, en bon sociologue, Hubert, donc le collaborateur de Mauss à l'époque, pense donc que c'est une vision finalement à la fois du local et du global des cultures humaines dans toute leur étendue temporelle et spatiale qui amène à une juste compréhension du phénomène sociologique. Donc finalement, dans leur département, donc dans leur salle, ils s'efforcent de présenter les traces des sociétés humaines non seulement selon leur succession chronologique, mais aussi selon leur niveau technique. Ainsi, ils créent deux axes de présentation qui se recoupent. Donc l'axe longitudinal de la salle, qui montre les étapes techniques selon leur ordre d'apparition, donc du paléolithique au Moyen-Âge, taille de pierre, fabrication de la céramique, maîtrise de la métallurgie, fabrication d'objets, matériaux organiques. Les axes transversaux, qui permettent d'établir des comparaisons entre continents ou zones géographiques plus ou moins éloignées. La permanence ou variabilité des milieux, solutions techniques pour la production de céramique au Proche-Orient, en Égypte, en Europe, en Amérique. L'utilisation de l'obsidienne en Mésopotamie, dans le Caucase, etc. Donc pour eux, en fait, pour tous les deux, cette méthode facilite l'étude technologique des objets en faisant apparaître plus clairement la parenté des motifs interchangeables ou associés, les relations entre l'ornement et la forme et les empreintes d'un type à l'autre. Donc cette préoccupation qui est constante pour eux leur permet de mettre en valeur les permanences, mais surtout les états intermédiaires, les transitions, les mélanges de coutumes et de mobilier, les phases indécises de métamorphose qui sont propres à caractériser les différents états d'une culture ou les interfaces des phénomènes sociaux. Ça, finalement, qui est intéressant, en fait. Les zones de frottement, en fait, qui sont en train de s'établir. Donc, en rapprochant les objets, donc les faits matériels, non selon leur contexte de collecte, mais plutôt selon leur provenance et éventuellement par assemblage cohérent, lorsque c'est encore possible, et en essayant de saisir les subtiles variations de forme et de matière, le sociologue historien cherche à caractériser des phénomènes sociaux, donc des faits immatériels, comment à plusieurs sociétés plus ou moins rapprochées dans le temps et dans l'espace. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc finalement, ils opèrent une sorte de décentrement. C'est cette manière de faire, hein, qui date quand même du début du XXe siècle, c'est quelque chose en fait qu'on va retrouver dans le champ de l'histoire contemporaine, qu'on appelle aujourd'hui l'histoire globale, en fait. Et donc, il y a un théoricien en fait de l'histoire globale, de ce qu'on appelle le global term, qui s'appelle donc Francesco Fistetti, qui se saisit finalement du paradigme de Mauss, parce qu'il faut vraiment bien entendre que ce fait social total, c'est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement paradigmatique, en fait, pour beaucoup d'anthropologues et d'historiens, en fait. C'est quelque chose finalement qui, au-delà de l'essai sur le don, qui envahit, en fait, toute la pensée. Finalement, c'est devenu quelque chose de vraiment une méthode, en fait, de pensée. Donc, Francesco Fistetti montre que donc, l'élaboration de la théorie du don s'appuie sur des découvertes et des moyens conceptuels de toutes les sciences jusqu'alors existantes. C'est le principe heuristique des faits sociaux totaux qui réclame la pratique transversale et hybride de l'encyclopédie des savoirs. On est dans une mise en cycle, en fait, du savoir. Et donc là, on peut déjà repenser un peu, finalement, à l'exposition, dans cette relation qu'ont eue les artistes de puiser dans tel et tel domaine, dans telle et telle discipline, dans tel et tel champ, et de mettre finalement en cycle des objets, non pas dans une volonté de faire savoir, mais, là on peut tous se poser les questions, de faire autre, de faire peut-être poésie, de faire poétique, de faire esthétique, de faire politique aussi. Voilà. Donc, sur le plan de la mondialisation, globalisation, explique donc Fistetti, cela entraîne par exemple de mélanger le global et le local, la modernité et l'archaïsme, la territorialisation et la déterritorialisation. On peut constater donc que l'aptitude encyclopédique du paradigme du don provient du noyau transculturel de ce que Mauss appelle la morale éternelle. Le cycle du don traverse, en forme historique variée, toutes les sociétés et toutes les civilisations. Il est partout opérateur et symbole d'alliance, de socialisation et d'individuation, de reconnaissance des identités humaines et de redistribution des ressources économiques et des positions de pouvoir. C'est pourquoi il dit l'approche encyclopédique, donc cette espèce de mise en cycle, conduit à restaurer la primauté du politique. Et c'est là, en fait, ce que j'ai trouvé finalement de très intéressant, c'est que dans ce paradigme justement du fait social total, on a justement une dynamisation de cette matière, en fait, factuelle. Et donc lui, sa thèse, c'est que ça permet de restaurer la primauté du politique. Donc, regarder les phénomènes sociaux comme des faits sociaux totaux permet de comprendre les divers mobiles esthétiques, moraux, religieux, les divers facteurs matériels et démographiques dont l'ensemble fonde la société et constitue la vie en commun, et dont la direction consciente est l'art suprême de la politique, au sens socratique du mot. La politique, au sens socratique, c'est l'art donc de diriger, en connaissance de cause, rationnellement, les affaires de la cité, ce que réclame la capacité de découvrir chaque fois l'équilibre, le juste milieu, entre générosité et égoïsme, intérêt pour soi et intérêt pour les autres, redistribution des ressources matérielles, symboliques, reconnaissance des instances des individus, etc. Donc, la question que je me suis posée, finalement, tout en suivant finalement ce paradigme du fait social total, c'est est-ce qu'on ne peut pas finalement déceler dans l'exposition, dans la manière dont les artistes ont travaillé, des instances comme ça, des choses comme ça qui reviennent, qui pourraient être de l'ordre aussi d'un fait social total, d'un modèle comme ça, du fait social total, qui se serait muté, parce que finalement, les artistes, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas pour volonté d'identifier des faits, il n'y a pas un enjeu de savoir, de connaissance derrière, mais est-ce que il n'y a pas quand même une activation d'un certain nombre d'objets justement factuels qui sont de l'ordre du fait social total, en tout cas d'une volonté non pas de totaliser pour unifier, mais une volonté de réunir des choses et de mettre ces choses-là en mouvement, en transversalité, comme finalement Mauss a pu le faire, en fait. Et là, de mon point de vue, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant à tisser, d'un point de vue, mais là, on est vraiment dans le champ de l'histoire, en fait, dans l'anthropologie et de l'histoire, en fait. Et on arrive, finalement, à une proposition artistique qui est plus de l'ordre de l'invention de la mise en relation de récits, finalement. Et là, on arrive aussi à une vision contemporaine de l'histoire, qui est notamment défendu par un penseur qui s'appelle Ivan Jablonka, qui dit que l'histoire est une littérature contemporaine. Et donc, le principe de l'histoire globale aujourd'hui, c'est justement, au même titre qu'on peut l'opérer ici, de décloisonner, de recadrer, de reconnecter, de faire un pas de côté, de penser à part égale, de décentrer, de changer de focale, de se dégager en fait de ces récits de ce qu'ils appellent les récits, les prêts à enseigner, de délaisser les romans nationaux ou régionaux au profit d'autres types de mémoires. Et je trouvais que, finalement, on pouvait... on revient là, pour le coup, aux intentions des artistes, parce que c'est surtout ça qui est important, quand Jimmy et Maria Teresa disent qu'au final, leur paradigme, il est plutôt poétique, en fait. Ils ont conçu l'exposition comme une sorte de grand poème, en fait. Donc un grand poème, c'est un récit. Même s'il se passe de verbes, s'il se passe de mots, il met en relation un certain nombre de faits, de choses qui sont très archipéliques, qui se dégagent en fait d'une vision linéaire chronologique et qui, je trouve, résonne assez bien avec de la discipline qu'est l'histoire globale aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que nous, à la station, on s'aperçoit d'une certaine manière que tous les champs disciplinaires qu'on étudie, ou on va dire qu'on aborde, ils sont dans une remise en question de ces catégories de la discipline elle-même, en fait. Et même les historiens, et donc les défenseurs de l'histoire globale, donc on l'appelle aujourd'hui l'histoire globale, mais elle a eu d'autres noms, c'est justement de casser en fait ce rapport justement de linéarité et de se déplacer de manière justement transversale, de faire ce pas de côté comme ils disent. Et donc à la question qu'est-ce que la Méditerranée qui a été posée à Fernand Braudel, qui est donc un historien et académicien, lui-même répondait c'est un espace mouvement. Magnifique. C'est une magnifique réponse pour finalement qui n'est pas une réponse finalement, qui est juste un autre questionnement. Et je pense que ces termes auraient plu en fait à Jimmy et à Maria Teresa, parce que j'ai l'impression que eux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est en tout cas de faire éclater les structures et de mettre toutes ces choses-là en mouvement. Et pour en revenir sur le politique, par rapport à ce que dit Fistetti, quand il dit que justement le fait social total restaure la primauté du politique, moi c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en tête et qui est assez complexe et qu'il faudrait peut-être beaucoup plus décortiquer et décrypter. Mais j'ai l'impression que justement, dans l'art, comme on n'est pas dans un rapport de savoir, encore une fois, on n'est pas là pour faire savoir, mais on explore quand même ces matières-là et on les donne à voir en fait. Donc il y a quand même, il y a de l'archéologie, il y a des choses disciplinaires, et il y a comme ça cette mise en cycle du savoir qui n'est pas une mise en cycle à destination de faire connaissance, mais qui est une mise en cycle à destination de faire justement mouvement, et forcément qui met en critique en fait, qui met en perspective les choses, ou plutôt en prospective en fait. Et je pense que la dimension politique de l'exposition, elle se situe précisément à cet endroit-là en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire une exposition de ce type-là sans tomber dans les poncifs de ce qu'on appelait trop rapidement l'art engagé ou l'art politique. Et pour revenir aussi à la sous-optimalité d'une certaine manière, parce que forcément ça m'a fait aussi réfléchir de ce point de vue-là, ce qui est intéressant de noter dans l'exposition, c'est qu'on peut vraiment l'aborder de manière presque déceptive. On peut être déçu en la visitant. C'est-à-dire je pense qu'on peut dire qu'elle a un attribut déceptif. Et le déceptif, il est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est comme si, d'une certaine manière, même l'espace est sous-optimisé. C'est une exposition qui respire énormément, comme on dit dans notre jargon. Et c'est vrai qu'on peut être déçu, parce qu'on peut être déçu, parce que si pour le peu qu'on connaisse un peu le travail des artistes, on attend peut-être un peu plus de militantisme de leur part. Et on peut être déçu parce que finalement, les choses sont mises au même niveau aussi. Les artistes ne répondent pas à notre désir de vouloir voir de l'art, en fait. Et eux-mêmes ne font pas art, en fait. Ils mettent les choses sur le même plan. Et ils essayent de créer des relations. Quand ils présentent les petits coquillages avec le murex qui crée la pourpre, avec cette petite photo voilà, de la reine d'Angleterre, là, l'exemple est assez criant, en fait. Et c'est ça, je trouvais qui est intéressant parce que je trouve que le politique, il d'une certaine manière, il s'imprègne sans forcément s'identifier à aucun endroit, mais je pense qu'il témoigne d'un positionnement qui est un positionnement qui n'est pas qui en tout cas pour eux est un positionnement qu'ils ont toujours eu en fait. De fait, on ne le voit pas. On ne peut pas l'identifier comme on aimerait le voir aujourd'hui, en fait. Voilà. Et je pense que dans l'art, en ce moment, ce qui se joue, c'est qu'il y a deux tendances, enfin, il y en a même peut-être plusieurs, mais il y a deux tendances quand même. Il y a quand même une tendance à la grandiloquence de faire politique et une certaine forme d'art peut-être plus un peu comme on a là sous les yeux, mais peut-être quelque chose, je ne sais pas, en tout cas qui n'est pas de l'ordre du discours. Voilà. Si on parle d'éloquence, peut-être qu'on peut parler d'aporie du discours, en fait. Et ça, je pense que c'est un positionnement qui, à mon sens, est profondément politique et qu'on peut choisir ou pas de tenir en tant qu'artiste aujourd'hui. Hein. Bref. C'est tout ça pour vous faire partager ces recherches et ces intuitions que nous avons mené un peu de front aussi sur l'exposition. Mais je pense profondément qu'il y a quand même quelque chose à creuser et à renouer du question du récit. À l'époque, les grandes tragédies, les épopées avaient pour fonction vraiment de faire état d'un moment du politique, des sociétés. Donc la question du récit aussi, et de l'histoire à travers ces récits, et de la manière dont les artistes font récit à travers l'histoire, et comment ils recréent des histoires contemporaines, personnelles, etc., etc., pour moi, constitue un véritable enjeu politique. J'étais un peu au speed, mais...
C'est contemporain, mais bon. Vous êtes dans un labo.
Ouais.
Donc tu t'applaudis toi-même, voilà. C'est ça. En fait, si on est dans cette logique.
Oui, pardon.
En tous les cas, moi, je suis ravie parce que, effectivement, d'une part, une collaboration qui donne d'autres perspectives, d'autres projets pour demander à une artiste de travailler avec d'autres artistes, mais qui en fait va trouver un autre type de projet qui passe par l'histoire, enfin, et qui nous ramène quand même à l'endroit et aussi au questionnement qu'on avait en interne de l'équipe. Enfin, je suis désolée de ne pas être si limpide là dans mon énoncé, mais cependant, évidemment, je suis ravie. J'aimerais bien que vous puissiez, puisqu'on parle de partage de la part de Sandra, que ça puisse être partagé. Je ne parle pas d'aimer l'exposition, de savoir si elle est... Voilà, je parle de ces questionnements qui on termine quand même sur cette notion du... Malgré tout, on a dit art et politique, on n'a pas envie de se tartiner ça d'une façon aussi frontale, mais par cet angle-là, est-ce qu'il y a matière, est-ce qu'on entend cela? Est-ce que ça vous évoque dire que le fait politique d'un projet comme celui-là, c'est pas précisément parce qu'il ne le serait pas, mais c'est parce qu'il engage sur un type de rassemblement, comme moi je le dis d'une autre façon, un rassemblement horizontal d'éléments culturels et naturels, et qui, à un moment d'ailleurs, petite parenthèse, m'a amené à... J'ai pas eu l'échange que je souhaitais avec Denis, qui me disait, mais finalement, quand tu étais venu voir cette expo, tu m'as dit, mais finalement, c'est pas une approche cosmomorphe. Mais après, je me suis dit, bon, tant pis, si c'est pas cosmomorphe, de toute façon, elle est là, et puis, je pense que dans un deuxième temps, j'aimerais bien qu'on y revienne quand même à cette notion, parce que j'avais le sentiment qu'avec la culture, pour le coup, qui est celle de ces deux artistes, naturellement, ils étaient cosmomorphes au départ. Bon, dans l'attitude. Après, que le résultat de ce travail inédit à quatre mains le soit ou pas, je n'en sais rien. Mais bon, revenons à la question que nous pose Sandra.
Moi, je trouve que l'exposition est éminemment politique. Oui. Par plusieurs aspects, celui que tu as dit, avec l'exemple du rapprochement du Murex et de la reine d'Angleterre. Par la respiration, parce qu'on est quand même dans une société, comme on a dit tout à l'heure, d'accélération, de pression, de cadence. Donc ici, ça, on peut se sentir exister dans cette exposition. Nous, en tant que visiteurs, on n'est pas écrasés. Et quand même, la salle 6, la Méditerranée, si c'est ça, c'est pas politique.
Oui, ouais. Sauf que tout le monde nous dit que c'est la seule pièce, seule salle.
Attendez, laissez-moi finir. Y a un tel contraste entre cette salle et toutes les autres, que c'est vraiment... on s'en fout que ce soit là. Vous savez, si dans une pièce, il n'y a qu'un petit chauffage, mais qui chauffe fort, c'est ce qui compte.
Monsieur, je suis bien d'accord.
Voilà. Et donc, nous n'avons qu'une seule salle, mais elle chauffe fort. Et donc, pour moi, le message est évident, magnifique. Et en même temps, qu'il ne se présente pas comme un message.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas discourant, comme tu as très justement dit.